Allez, on tient le bon bout, Nicolas. Ça enregistre, hein.
Moi, le théâtre, pour moi, c'est une quête d'inconnu. Je questionne toujours l'inconnu au théâtre. C'est ça qui m'intéresse.
Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que agir, c'est pas forcément faire des trucs spectaculaires avec 3 millions de lalles qui est je sais pas quoi. Agir, c'est faire des trucs que nous, on pense importants. C'est ça le truc.
Ce qui s'appelle très humblement l'éducation populaire, quoi. Moi, j'ai besoin d'apprendre et j'apprends jamais mieux qu'avec d'autres gens.
Ça n'engage à rien.
Je ne pourrais pas dire à partir de quand tout a vrillé. Je me souviens de tout et c'est à la fois très flou, irréel. Vous savez, quand on est au bout du rouleau, on ne peut pas faire autrement. On prend sur soi pendant longtemps et puis, paf, on perd pied. Je me sens responsable, bien sûr. Je suis le chef d'établissement. Tout est allé si vite. Je regrette tellement. Je m'en veux. Vous ne pouvez pas imaginer.
Ladies and gentlemen, on the road again. Bonjour à toutes et à tous.
Et salut, hein.
Salut, mon Nico. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce premier opus de la saison 2021-2022. Toujours en partenariat avec le CDN de Normandie-Rouen.
Et ouais, ma gueule.
Dingue. Pour cette sixième saison, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à la nouvelle direction du Centre Dramatique. J'ai nommé Madame Camille Trouvé et Monsieur Brice Berthoux. Tous mes vœux de bonheur. Vous le savez, vous pouvez suivre votre émission Ça n'engage à rien en direct, live, sur Radio HDR 99.1 FM ou en balado-diffusion sur tous les bons supports appropriés.
Même sur l'audioblog d'Arte Radio ?
Et ouais, mon Nico !
C'est dingue !
Pour commencer cette nouvelle aventure plus que jamais en immersion au cœur de la vie palpitante du CDN, c'est à l'EMS à Mont-Saint-Aignan que nous avons rencontré pour vous, en septembre, Madame Corinne Méniel et Monsieur Angelo Josek, en pleine résidence pour la nouvelle création de la compagnie Crescité. La folle idée, qui se jouera du 8 au 10 novembre 2021 au Théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly. Création coproduite par le CDN et en partenariat avec l'Étincelle, Théâtre de la Ville de Rouen.
Et bim !
Alors, sans plus attendre sur les chemins de l'école, c'est à un voyage passionnant, enrichissant, déroutant, au cœur d'un huis clos palpitant d'une salle des professeurs, auquel nous vous convions cette fois pour ce nouvel opus intitulé tout simplement « La folle idée ».
Round 30.
Buret Joël, 9,63 de moyenne. Bon, alors, le niveau ?
Il mérite C, il est sérieux.
Oh oui, il travaille très bien.
Je suis d'accord. Eh bien, vous n'êtes pas difficile. Avec moi, il a 4,25 de moyenne.
Mais avec ça, il doit sûrement être parmi les meilleurs.
C'est la sixième note.
Avec un prof normal, il aurait 8 ou 9.
Ah, parce que vous vous croyez normal, vous ? Moi, je dis que sixième en maths avec 4,25, c'est une classe de débiles.
Bah, avec moi, ils sont pas débiles.
Et en histoire-géographie ?
Bon, ils croient que Hong Kong est un gorille géant. Mais à part ça, ça peut aller.
Nous ne saurons rien en physique-chimie, le professeur étant toujours cristallisé. Bon, alors qu'est-ce qu'on met ?
Niveau C avec un moins.
J'ajoute qu'il faut travailler en mathématiques. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens-là à la fin de l'année ?
Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'arrête pas de dire on demande à l'école, on demande trop à l'école, mais c'est quoi l'école ? Enfin, la question, on peut demander beaucoup à l'école, très bien. Encore une fois, c'est la première dépense de l'État. Et ce qu'il faut, c'est arrêter de demander tout aux profs. C'est-à-dire, si tout demander à l'école, ça veut dire tout demander au prof, là, ça va pas être possible.
Bonjour, je m'appelle Corinne Méniel, je suis dramaturge de La Folle Idée et co-autrice.
Ce qui est sûr, c'est que l'école a toujours un but et que toute réforme de l'école est associée à une pensée idéologique. L'école est au service de l'État qui l'a créée et forcément, il n'est pas neutre idéologiquement. Il est là au service de cet État et de ce qu'il veut faire de ses citoyens.
Bonjour, je m'appelle Angelo Josek, je suis le metteur en scène de La Folle Idée et le co-auteur.
À la fin de la Révolution, théoriquement, on avait pensé l'école comme quelque chose d'indépendant du gouvernement, que l'école, justement, ne puisse pas être sous le joug du gouvernement en place qui, lui, va bouger. Et on pensait justement que le gouvernement et l'école devaient être indépendants parce que l'école était ce qui permettait d'enseigner tout ce qu'on sait là jusqu'à maintenant pour que vous, les enfants, vous fassiez mieux que nous et que vous réformiez le gouvernement. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est l'inverse, c'est que chaque gouvernement réforme l'école. Mais jamais l'école ne réforme le gouvernement.
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ?
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne.
Eh bien, en fait, Corinne Méniel était l'ancienne conseillère théâtre à la DRAC de Haute-Normandie à l'époque. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, je crois, en 2012. Donc, on se connaissait par le travail, mais je connaissais
J'avais
pas...
J'avais été la tutelle de ce grand garçon.
Voilà, c'est ça. Donc, on se connaissait pas artistiquement, mais en tout cas, voilà, on avait
déjà... On se connaissait administrativement et pas bibliquement non plus.
Madame la ministre, je suis Jean-Jacques Demeuse, principal du collège René Haby, et je crains ne pas avoir de bonnes nouvelles à vous communiquer. J'en ai ras la casquette, et j'ai la ferme intention de péter les plombs dans des proportions astronomiques. Moi, qui suis le garant de vos décisions ici, l'application des réformes et tout le « je ne peux plus » à mes débuts, j'étais le bon collègue de mes copains les profs. Hein, les copains? Pour eux, aujourd'hui, je ne suis plus qu'un despote. Ou pire, un vendu. D'année en année, vous avez fait de moi un coordinateur de projet, un manager. Je suis obnubilé par les chiffres. Je n'endors plus la nuit. Je ne pense plus qu'à être au plus proche des moyennes nationales pour être mieux noté. Et je me vois faire des professeurs, des prestataires de services, et ça me répugne. Je me répugne.
Ça remonte à un moment, ça remonte à l'automne 2017, et même le premier échange là-dessus, ça devait être même, je dirais, juin 2017, c'est-à-dire qu'on m'a invité à faire un stage avec les comédiens stagiaires de mon ancienne école à Caen, l'ACTEA, et ça faisait un moment que j'avais envie de travailler sur la question de l'éducation nationale, en fait, ou plutôt, même, je dirais simplement, de faire une comédie sur les profs, peut-être, parce qu'avec la compagnie, on a passé pas mal de temps dans les établissements scolaires, mais face à tout ce que concerne l'éducation nationale, je me sentais pas à l'aise d'y aller seul sur ce sujet-là. Et donc, j'ai appelé Corinne, justement, en tant que dramaturge, pour qu'elle vienne avec moi assurer ce stage avec ces jeunes comédiens stagiaires et qu'elle puisse ramener énormément de matière, de textes récents ou plus anciens, d'ailleurs, et qu'on se mette à essayer de faire du théâtre avec cette matière-là, quoi.
Tous les 5 ans, il faut qu'on se coltine des centaines de pages de circulaires illisibles et de programmes révisés. Et pendant ce temps-là, on est les moins bien payés d'Europe. Ça démissionne à tour de bras. Les reconversions pleuvent. Et les lettres des suicidés témoignent sans cesse de l'impression qu'on a de vider la mer à la petite cuillère. Qu'on s'assomme de plus en plus et qu'ils en sachent de moins en moins. Et tout ça pour vivre dans une société de connards pour qui on n'a rien pu faire et dont les parents clients vous humilient à longueur d'année. Parce qu'après tout, c'est bien eux qui nous paient, feignants que nous sommes, avec leurs impôts. Parce que plus on est déclassé, plus la bourgeoisie se croit autorisée à nous considérer comme ses employés. Alors maintenant, ça suffit. On n'en veut pas de votre réforme RPT. Ça fait 4 mois qu'on est en grève dans tout le pays. Alors moi, puisque plus personne ne veut m'écouter, moi, je les prends en otage, mes petits copains les profs, dans ma petite salle des profs. Et je leur éclate la gueule à coups de bastos.
On s'est dit effectivement assez vite avec Corinne, c'est qu'il fallait surtout pas se mettre à faire du théâtre documentaire sur ce sujet-là. Pas parce que c'était glissant, mais parce que il fallait qu'on fasse du théâtre. Et quelque part, pour faire du théâtre, s'il n'y a pas d'histoire, enfin, en tout cas, moi, j'avais envie qu'il y ait des personnages qui partent d'un point A et qui vont à un point B, et qu'on raconte une histoire, quoi. Je voulais pas que ce soit une sorte de patchwork de grands textes sur l'éducation et puis qu'on mette ça en scène dans un espace indistinct. Non, je voulais vraiment créer un parcours de personnages et une histoire.
Il y a une grève nationale des enseignants d'envergure suite à une réforme du collège. Et il y a un groupe d'enseignants qui veut inventer une nouvelle manière de s'opposer au gouvernement et qui va se retrouver confronté à un drame. Alors, quand on est en art du spectacle à l'université, les cours de dramaturgie, c'est des cours d'analyse du texte, effectivement, de la structure de la fable. Et là, ça fait partie des missions que j'ai eues. Quand Angelo a commencé à penser à son histoire et à me raconter son histoire, est-ce qu'elle est arrivée à ses personnages, est-ce qu'il voulait. Et très souvent, je l'ai arrêté en lui disant, mais tu prends les choses à l'envers, là, tu vas m'écrire tous les événements sur des bouts de papier séparés. Et après, on va monter l'action sur un tableau en liège. Mais d'abord, tu prends des ciseaux et des bouts de papier. Donc, dramaturge, à la base, c'est un usage et un mot allemand et c'est plutôt un poste permanent dans les grands théâtres de conseiller littéraire et qui fait de la documentation. Et en France, on s'en est emparé un peu différemment. Du coup, généralement, c'est un mot qui désigne des choses différentes à chaque projet. Donc, j'ai pas le même rôle dans ce projet-là que quand j'ai été dramaturge de Thomas Joly sur un opéra. C'est encore autre chose. Là, je dirais qu'il y a deux fonctions. La première, c'est vraiment de la documentation. C'est sur un sujet donné de pouvoir faire des recherches, de récupérer beaucoup de matériaux documentaires, philosophiques, littéraires, factuels parfois, puis de les organiser pour le donner au metteur en scène qui est pas universitaire. Et après, de surveiller comment ce matériau devient du théâtre ou devient pas du théâtre. Et Vitesse disait que le dramaturge, c'est le flic du sens. Donc une fois qu'on a apporté toute sa matière au metteur en scène, on le laisse travailler tout ça, et on peut revenir un peu plus tard pour lui dire, bah oui, mais là, il y a un contresens, là, ça se voit pas, là, c'est trop didactique. Enfin, avoir un regard sur le spectacle qu'il en a fait pour lui dire si ça passe ou si ça passe pas.
Comme on joue sur des temporalités différentes, les flashbacks, le présent, des interrogatoires qui ont lieu un peu plus tard, enfin voilà, il fallait s'amuser à faire ce petit découpage parce que tout était possible à la base en fait. Quel montage on décidait de faire quoi?
Les oliviers baissent les bras, les raisins rougissent du nez, et le sable est devenu froid au blanc soleil. Maître baigneur et saisonnier retournent à leur vrai métier, et les 100 ans seront sculptés avant Noël. C'est en septembre, quand les voiliers sont dévoilés et que la plage tremble sous l'ombre d'un automne débronzé. C'est en septembre que l'on peut vivre pour de vrai. En été, mon pays à moi, en été, c'est n'importe quoi. Les caravanes, le camping-gaz, au grand soleil. La grande foire aux illusions, les slips trop courts, les shorts trop longs, les Hollandaises et leurs melons de Cavaillon. C'est en septembre, quand l'été remet ses souliers et que la plage et comme un ventre que personne n'a touché. C'est en septembre que mon pays peut respirer.
La première version, c'est un peu une broderie autour de quelque chose comme le révisor de Gogol. C'était l'idée d'un imposteur qui se faisait passer pour le nouveau principal d'un collège et qui proposait aux enseignants une carte blanche sur l'éducation idéale, et les professeurs se rendaient compte que sans règles, si rien ne nous est imposé, on est obligé de se battre. C'était assez désespéré déjà comme vision des choses.
Bah, ensuite, toi, tu parles du réviseur de Gogol, mais c'est vrai que moi, au départ, je pensais beaucoup au film Théorème de Pasolini.
Il y avait Théorème.
Qui du coup n'a rien à voir avec l'éducation, mais c'est-à-dire que c'est ce personnage masculin qui vient dans une famille bourgeoise et qui fait tout éclater et qui disparaît. Et on ne saura jamais dans le film d'où il vient, qui est cette personne, pourquoi il est là et où il est parti. Mais en tout cas, le film nous laisse, en tout cas, avec cette famille à qui il a ouvert plein de portes. Et puis débrouillez-vous, vous ne savez pas quoi en faire. Et j'aimais assez ce parcours-là, effectivement, avec cet imposteur qui vient au début, qui dit « Et si vous pouviez faire ce que vous vouliez, qu'est-ce que vous feriez ?»
et que finalement, au départ, on se dit c'est génial, je peux faire ce que je veux, et finalement, enfin, en tout cas, ça pose la question de est-ce qu'on veut vraiment faire ce qu'on veut, ou est-ce que c'est pas aussi parfois pratique de suivre les directives de ceux qui nous les donnent, quoi.
L'idée de faire théâtre avec ça, c'était que le sujet soit pris au sérieux. Il fallait pas que ce soit des gens qui bavardent.
Oui.
Et que ce soit un drame, une enquête, un meurtre, une prise d'otage, un attentat. Tous les scénarios qui ont gravité, c'est qu'il fallait que ce soit en tout cas un drame à un moment pour que le sujet soit pris au sérieux. Et puis, ça fait partie du discours qu'on voulait mettre en avant. C'est-à-dire, ce sujet-là, politiquement, il est énorme. Donc il fallait que ça passe par des événements énormes pour dire, voilà, on fait pas une comédie sur les profs, on voudrait mettre ce sujet politiquement au cœur du débat, de la discussion, que les gens rentrent chez eux le soir et qu'ils se disputent en couple. C'est ça, et l'écologie, c'est quasiment le seul sujet politique qui mériterait d'être discuté.
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne.
Au sein de l'école, finalement, je trouve se rassemblent la plupart des questions qui traversent la société, et c'est souvent l'école qui se retrouve la première à devoir se positionner par rapport à, des fois, des questions de société qui ne sont pas tranchées en termes de loi.
Dans la première version, on avait lu tous les préambules du Code de l'éducation, la loi, et à la fin, on en riait. Je veux dire, mais qu'est-ce que c'est que cet inventaire à l'après-vert? L'école doit absolument tout faire. Il faut lire ça, les 12 premiers articles du Code de l'éducation, ça devient une blague tellement l'école est chargée de faire de nous de meilleurs citoyens, des gens plus intelligents, de meilleurs professionnels. Elle doit absolument tout faire, comme si nous, on n'avait plus rien à faire, que ce soit comme individu ou comme parent ou juste comme citoyen. Mais cette manière de dire, cette institution, elle coûte 12 milliards, elle va tout faire pour vous. C'est une curieuse manière de l'envisager quand même.
Quel que soit le sujet pris de manière très concrète sur l'école en particulier, dès qu'on tire un petit peu ce fil-là, on se retrouve dans un débat de société pour tout ce qui nous entoure, en fait.
Il n'y a plus de service militaire, il y a moins de militantisme. Enfin, l'éducation nationale, dès lors que l'école est obligatoire, c'est le dernier endroit où on fabrique du collectif. Il y a moins de pratiques religieuses aussi. Donc, dans une société qu'on sait de plus en plus individualiste, le dernier rouleau compresseur collectif, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et d'autre part, il y a un paradoxe aussi qui est le fil conducteur de toute la pièce, qui est que la France se vante et se targue d'être le pays qui a inventé les droits de l'homme, en fait. Et donc cette idée qu'on est libre et égaux en droit et qu'on doit avoir une égalité des chances. Et en revanche, à chaque fois qu'il y a des études internationales, la France est le pays développé où l'origine sociale des élèves pèse le plus sur leur destin scolaire.
Et alors, donc ce qui se passe, c'est qu'il y a les contres, et là en gros on va simuler une avec les contres, c'est là qu'on va chercher des pancartes, qu'on va essayer de singer une manif. Et quand arrive Moustaki, les rideaux se ferment parce que finalement on va essayer pour la scène 18 de la jouer en salle. Parce que le rideau, enfin le banc, on va voir comment on la joue en salle, mais c'est ce qu'on va tester pour la scène 18, que vous êtes en salle. Et donc c'est pour ça qu'il y a une sorte de similine manif,
putain,
ce qui laisse à Jean-Marc, Catherine, Élise, le temps d'aller mettre leur costume de manif, prendre des pancartes, et pendant ce temps-là, tous les autres doivent jouer, j'en sais rien, hein, on va voir ce qu'on fait, quoi. Et le rideau finit par se fermer, Moustaki, et puis la lumière arrive en salle, et puis on a déjà Jean-Marc, Catherine. Donc maintenant, ceux qui ne sont pas dans la 18 sont libérés.
On a lu beaucoup, Corinne plus que moi. Après, moi, j'ai passé pendant un an, là, vraiment une immersion dans deux établissements scolaires. Après, les salles des profs, je les connaissais déjà beaucoup. Et en fait, c'est là aussi où ces immersions ont servi. C'est que même si avec la compagnie, on allait beaucoup dans les établissements scolaires, ceux qu'on rencontrait, c'était souvent, en fait, les professeurs de français qui faisaient venir ces actions pour leur classe. En fait, on parle toujours du monde enseignant comme si c'était une seule et même entité. Mais en tout cas, ce que j'ai découvert aussi, c'est que l'ensemble des fonctionnaires de l'éducation nationale sont pas du tout d'accord sur toutes ces questions, c'est pas aussi simple que ça, qu'il n'y a pas que les profs, qu'il y a tout le côté administratif, le chef d'établissement et son équipe, qu'il y a aussi la vie scolaire qui est dans d'autres problèmes ou d'autres attentes des profs ou du chef d'établissement, et qu'en fait, ces trois piliers-là, il y a le quatrième pilier qui est peut-être celui des agents départementaux qui s'occupent des bâtiments et qui sont là aussi. Et donc, comment ces quatre entités fonctionnent ensemble, ça fait partie d'un des problèmes aussi que j'ai pu voir. C'est pas simple, quoi. Ils ont pas les mêmes objectifs, ils ont pas des réunions d'équipe comme on peut avoir dans tout un tas d'autres corps de métier. Enfin, en tout cas, cette enquête de terrain m'a amené à regarder la connaissance que je croyais avoir des collèges, enfin en tout cas à remettre en question les croyances que j'avais.
Alors là, j'ai rien compris. C'est moi où il n'y a même pas eu de sommation.
C'est de plus en plus dangereux.
Et puis il y avait des gosses avec nous. On a l'impression qu'ils ne prennent absolument pas ça en considération. Des gamins de 16 ans qui se retrouvent dans cette violence.
On était sur le trajet défini avec la préf, on avait le droit d'être là.
Tessa s'est fait embarquer. Ça devient dangereux, moi j'irai plus. J'ai pas envie de perdre un œil.
Ça va, princesse? T'es vaguement griffée. Les manifs, c'est comme ça que ça se passe.
Mais enfin, tu crois que je t'ai attendu pour faire des manifs?
Eh oh, ça sert à rien de vous énerver, c'est exactement ce qu'ils cherchent. Créer des scissions dans le mouvement pour qu'ils retombent.
Christine n'a pas tort. La violence va continuer à monter, et moi non plus, hein, je suis pas sûre de vouloir poursuivre dans ce climat.
Attendez, vous n'allez pas nous lâcher les unes après les autres. On est déjà plus que 9. Vous voulez qu'elle passe, cette réforme, c'est ça?
Mais nos manifs ne servent à rien, tu le vois bien. Bien sûr qu'on est contre la réforme, mais il faut trouver d'autres moyens d'action.
On s'épuise, on prend peur, on prend des coups, et on n'avance pas plus. Qui serait pour trouver autre chose?
Moi.
Moi.
Parfait. Alors, c'est quoi cette autre chose? C'est quoi votre idée formidable?
Oh, laisse-nous un peu de temps, là. On vient à peine de décider l'abandon des manifs.
Oh putain, c'est l'abandon des manifs, maintenant. Putain, les meufs, vous filez. En une seconde, on est passé de faire autre chose à l'abandon des manifs. Eh ben, je vois parfaitement où on va et ça va aller très vite.
Remettons les choses à plat. Qu'est-ce qui pourrait fonctionner?
Une pétition sur change.org.
Waouh! Une pétition! Oh! L'ensemble du cabinet du ministre tremble d'effroi rue Descartes.
Pirater le service informatique du rectorat.
On a déjà du mal à faire le pont entre Pronote et l'ENT.
Nous, encore une fois, que ce soit comme auteur, il était très important pour nous de pas apprendre au pape à dire la messe, quoi. Donc on n'est pas ministre de l'éducation, on n'est pas chef d'établissement, on n'est pas enseignant, on voulait pas expliquer la vie à tout le monde, hein. Donc on veut préciser les débats pour que tout le monde s'empare des concepts et puisse y penser comme citoyen. Mais cette question-là, il y a d'abord une réponse intéressante dans un livre qui date, hein, des années 60, de Pierre Bourdieu, qui s'appelle « Les héritiers », et qui constate quand même que telle qu'elle est pensée, Bourdieu explique que ce qui est valorisé par l'école, c'est généralement ce qui est aussi valorisé dans la culture bourgeoise. Donc la culture générale, la faculté à rester discret, donc à pouvoir se concentrer facilement, à suivre des consignes sans se rebeller, à pas chercher à comprendre tout de suite la consigne. Bourdieu explique que l'école, qui se dit démocratique, sans l'avoir forcément fait exprès, reproduit les valeurs et les comportements de la bourgeoisie, et donc que les enfants de bourgeois sont naturellement avantagés. Donc juste si on prend les chiffres des performances, même si le mot est affreux, de l'éducation nationale, qu'est-ce qui fait qu'un élève qui rentre à l'école réussit et qu'un autre échoue? La première lecture, hein, ça va être son origine sociale. Hein. Les enfants de bourgeois y réussissent, tant mieux pour eux. La vraie question, c'est chez ceux qui sont pas enfants de bourgeois, pourquoi il y en a qui réussissent à s'emparer de l'outil éducation nationale et à qui on arrive à donner une vraie liberté de destin et une possibilité de d'émancipation? Et pourquoi, pour l'immense majorité, l'école échoue à faire ça et à signer, en fait?
Il y a plein de choses dans l'histoire de l'éducation. Il y a eu plein de propositions qui n'ont pas été toutes appliquées, mais le Pelletier de Saint-Fargeau, voilà un poste révolutionnaire, effectivement, qui a proposé son projet face à Condorcet. C'est Condorcet qui a gagné. Lui, finalement, il proposait la vraie réponse à Bourdieu, c'est-à-dire que la seule façon de faire, c'est de sortir les enfants des familles pour justement venir empêcher les inégalités par les familles, et que la seule façon de faire, effectivement, c'était pas d'essayer de faire mieux réussir les faibles, mais surtout de ralentir les plus forts. On comprend que c'est un concept qui est terrible, et en même temps, c'est une réponse qui, sans doute, marcherait. Mais
à quel prix?
Il y a aussi une autre possibilité, si on veut casser le collège unique, il y a ce que pense Ivan Illich, c'est-à-dire qu'en fait, il faut détruire l'école. Plus d'école, c'est la seule manière. C'est-à-dire que à force de tout attendre de l'école et des professeurs, et ben finalement, quelque part, on s'empêche par nous-mêmes de devenir curieux, d'aller chercher par nous-mêmes et de faire nous-mêmes notre propre enseignement, notre propre instruction. Et aujourd'hui, à l'époque où écrivait ça Illich, il n'y avait pas encore tout ce qui est numérique. Et justement, dans son livre, il en parle, il dit ce serait formidable qu'il existe des façons...
Oui, il invente Wikipédia, il fait de la science-fiction, il dit le jour où tous les savoirs sera disponible facilement et pas cher partout, mais il y aura plus besoin d'école.
Et ben, il pense à Wikipédia et il pense, sans le savoir, aussi à tous les réseaux sociaux, parce qu'il dit en fait la seule chose qui importe, si ce qui serait formidable...
C'est que celui qui sait puisse rencontrer celui qui voudrait apprendre. Et de dire, moi, ça marche pas comme ça.
Moi, tel sujet m'intéresse, est-ce qu'il y a un groupe de personnes qui seraient intéressées par ce sujet, on se met ensemble et on bosse. Ce serait possible aujourd'hui.
Mais il fréquentait trop de gens intelligents, il n'avait pas anticipé l'état de crétinerie dans lequel on pourrait tomber avec ces outils-là.
L'une des innovations déterminantes dans l'histoire des luttes ouvrières, c'est l'occupation des usines. Ça se cristallise en France dans les années 30. Je crois qu'un des retournements que cela a permis, c'est que par cette appropriation de l'espace et la convivialité qu'elle crée, la lutte devenait joyeuse.
Les intermittents ont occupé les théâtres pendant la crise sanitaire, ça n'a pas donné grand-chose.
Non mais eux, on comprend jamais rien à leur truc.
Si on continue à regarder dans l'histoire ouvrière, le moyen le plus efficace des dernières décennies, c'est la séquestration des patrons. Il n'y a quasiment jamais de plainte. Et quand il y en a, c'est souvent classé sans suite. Ou alors, les condamnations sont très inférieures à ce que prévoit le code pénal. Les événements le prouvent, ça fonctionne. 50 millions obtenus chez Caterpillar, 1,7 million chez Scapa. Parce que le stade d'après, c'est la menace de destruction de l'usine. Et alors là, les patrons préfèrent céder dès le début de la radicalisation.
Mais c'est qui le patron à l'Éducnat ? Le ministre ou le recteur ?
Oh, alors là. On séquestre de Meuse et on menace de faire péter le collège.
C'est vrai que les gilets jaunes, ça n'a eu de l'impact qu'à partir du moment où il y a eu de la casse.
Avec un défilé de pancartes devant l'Assemblée, t'as tout juste une colonne dans le Parisien. Tandis qu'avec une dégradation de monuments historiques, tu fais la une des JT.
Je ne vous suis absolument pas sur le terrain de la violence. Ça n'est jamais une solution.
Jaurès disait que la violence compromet par une apparence de barbarie la beauté des promesses de civilisation.
Jaurès disait aussi que quand la violence éclate, c'est contre les maîtres qui y ont conduit qu'il faut s'indigner.
J'espère ne pas vous faire de peine en vous apprenant que Jaurès est décédé.
Assassiné en 1914 par un nationaliste. Merci, on est au courant.
Toutes les options légales et pacifistes ne servent plus à rien. La grève, les manifs, les sittings, on ne fait que ça depuis des mois. Rien n'a prise, nous sommes impuissants. Et c'est d'autant plus cruel que ça n'intéresse personne.
S'opposer de toute façon, c'est s'exposer à la violence. Tout acte politique est violent.
Quand deux volontés s'affrontent, c'est un combat, il n'y a pas d'autre mot.
Et puis, on n'est pas obligé d'être vraiment violent physiquement. Ce qui compte, c'est l'image. Parfois, il suffit de déchirer une chemise.
On tient quelque chose là. À ce compte-là, la bonne solution n'est pas la violence. C'est de faire croire à la violence.
Cette idée folle, un jour d'inventer l'école.
Qui a eu cette idée folle, un jour d'inventer l'école?
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis.
De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis.
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Ce fils de Pépin le Bref nous donne beaucoup d'ennuis. Et nous avons sans grief contre lui. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne.
Participe passé, 4 et 4 fois 8. Leçon de français, de mathématiques.
Que de Travail. Sacré Charlemagne.
Nous sommes le lundi de la rentrée ici en France. Paris Direct fait sa rentrée donc comme 12 millions de petits Français, 12 millions d'élèves qui reprennent ce lundi matin le chemin de l'école. Parmi eux, plus de 70 000 vont rejoindre ce qu'on appelle une école hors contrat, une école autonome qui n'a signé aucun contrat avec l'État. Elles sont religieuses ou laïques, elles connaissent un succès grandissant. Julien Sauvager a pu pousser les portes de deux d'entre elles. C'est notre focus aujourd'hui.
Bienvenue à l'école dynamique, une école un peu particulière. Ici, il y a bien des livres scolaires, mais pas de salle de cours comme on l'entend habituellement.
C'est l'endroit où on travaille, où on fait de l'administratif, où on se repose, on lit des BD.
Car ici, pas de prof, pas de cours formels et encore moins de leçons. L'enfant apprend suivant ses envies, à son rythme, en choisissant librement son emploi du temps.
Donc là, on va descendre dans les escaliers, l'endroit qui va nous mener au sous-sol, les endroits où on va s'amuser, surtout.
Une sorte de cours de récréation en libre accès.
Ici, c'est la salle média. La salle média est l'endroit où on va jouer hors ordinateur, jouer à la PS3. Cette école est une école où, en gros, tu vas apprendre par toi-même. Si tu as envie de l'aide, tu vas demander aux personnes et au staff, aux responsables, et ils vont t'aider.
Les responsables, car oui, il y en a. Ce ne sont pas des professeurs, mais bien des adultes. Ils sont 8, chargés de veiller au bien-être des 45 enfants de cette école.
Ça n'engage à rien.
Le plus important, c'est la liberté ou c'est l'égalité? Si on veut que l'égalité soit exemplaire, il n'y a plus de liberté individuelle. Si on laisse les gens être parfaitement libres, il n'y a aucune possibilité d'égalité. La démocratie, c'est pas lui dire qu'il est libre. Il n'y a pas de liberté qui n'est pas organisée par la loi. C'est de lui dire que c'est lui qui est au pouvoir, au peuple. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Donc il faut bien organiser l'exercice du pouvoir. Et quand on est 70 millions, c'est compliqué d'organiser l'exercice du pouvoir. Et quand il n'y a pas de consensus, mais il n'y a pas de démocratie. Le peuple, c'est pas un bloc uniforme qui veut tous la même chose. Donc la démocratie, ça devient comment on organise les désaccords. Ben, c'est déjà beaucoup moins enthousiasmant comme projet. Mais c'était ça le fil, en tout cas, de l'intrigue, de ce que nos personnages vont traverser. C'est qu'ils se donnent cette occasion de dire, mais si on était parfaitement autonome et si on était seul aux manettes, l'école idéale, ce serait quoi? Et en discutant, ils se rendent compte qu'ils sont pas d'accord, qu'il va donc falloir organiser la prise de pouvoir, qui va avoir le dernier mot, et ils se heurtent à l'exercice démocratique, et on a essayé de les rendre le plus symptomatiques possible des problèmes contemporains.
L'idée, donc, il y a une première, la lumière baisse doucement, donc il y a quand même le temps, hein, là, pour faire les choses, surtout que vous n'avez pas de changement de costume. Donc assez vite, il faut enlever le premier canapé qui est en bout du L là. Béatrice, tu ne toucheras rien à la scène, parce que moi j'avais envie que tu termines en derviche tourneur dans ce truc là, ce qui va t'amener et donc c'est tous les autres, c'est les 8 autres qui faut basculer la table, ramener les boîtes de pizza et les quelques accessoires et bouger les canapés, mais finalement il n'y a pas tant que ça de choses. Hein.
À nous 8 ça va aller.
À 8.
À 8 ça va.
À 8.
Et il n'y a pas un banc? Il y a le banc?
Non, là c'est la scène qu'on vient de faire. C'est la fin de la démocratie qui nous amène à ça. Donc qui veut faire quoi?
Alors il y a 9 personnages dans la folle idée. Il y a un chef d'établissement, une CPE et 7 professeurs de différentes matières. Ni Corinne ni moi ne sommes officiellement auteurs au sens où on serait déjà publié depuis des années, etc. Donc pour nous c'est aussi en termes d'écriture théâtrale.
D'accord.
Du coup on n'a pas de méthode. Je sais pas comment font les autres, mais on a eu un peu tout à inventer. Et ça a été un long travail. Et je crois qu'on est aussi beaucoup passé par de l'écriture de plateau. Même si écriture de plateau, c'est un terme qui englobe tout et son contraire. On a eu besoin, effectivement, nous, d'arriver avec de la matière théorique qu'on a donnée aux acteurs en se disant, tiens, au départ, de manière un peu aléatoire presque, on a attribué une pensée à un acteur ou une idéologie, en tout cas, d'éducation nationale. Et ensuite, dans différents contextes dans lesquels on les mettait, des situations d'improvisation, ils se mettaient à essayer de défendre ça. C'était assez laborieux parce que un acteur peut improviser, mais il ne peut pas ingurgiter toute une matière théorique qu'on lui donne comme ça en un claquement de doigts et puis ensuite pouvoir la restituer correctement, intelligiblement dans une impro. C'était périlleux pour les acteurs, je pense, les toutes premières étapes de travail, mais en même temps, nous, ça nous a toujours servi. Même si eux avaient l'impression de patiner, nous, on progressait lentement, mais on progressait. Et c'est comme ça, c'est vraiment petit à petit que se sont dessinés les personnages, entre certains qui sont nés sur la première maquette, effectivement, qu'on avait envie de garder, certains qui sont nés même dans la toute première étape dont on parlait au début, en 2017, avec les élèves de l'ACTEA, qui finalement sont revenus. Enfin, quand on a finalisé le texte avec Corinne, là, en août, c'était assez drôle de voir que finalement, rien n'avait été perdu. Il y avait toujours une bribe d'une de toutes les sessions de travail dans l'état du texte final, quoi.
Il y a plein de séquences qui ne sont pas dans le spectacle, mais que les acteurs ont traversées. Qu'est-ce que c'est qu'un rendez-vous avec des parents d'élèves, quand il y a un sujet justement qui est un peu touchy politiquement? Qu'est-ce que c'est qu'un conflit entre une direction d'établissement et un staff enseignant? Enfin, il y a beaucoup de situations dramatiques qui ne sont pas dans le spectacle au final, mais que les acteurs, eux, ont traversées et qui étaient de se faire un vécu de prof.
On voulait que à la fois les acteurs, mais nous aussi, c'était un besoin. C'est pour ça que les immersions en établissement sont nécessaires, parce que même si le spectacle n'a pas l'envie d'être documentaire, nous, on avait quand même envie que même dans notre fiction aussi folle soit-elle, on ne dise pas trop d'énormité sur un métier qui n'est pas le nôtre.
C'est pas documentaire, c'est documenté.
Je regrette que ça ait dérapé, mais je ne regrette pas ce qu'on a fait. Nous avons fait preuve d'insoumission. Mais n'est-ce pas cela, être un citoyen éclairé? C'est prescrit par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Ce n'est pas cela les valeurs qu'on nous demande de transmettre? Les valeurs de la République? La violence n'est pas une valeur de la République, vous me l'apprenez? L'État a le monopole de la violence légitime, c'est sa raison d'être. Max Weber, le savant et le politique. Vous ne connaissez pas? Eh bien, il faut lire ça, monsieur, surtout dans votre branche. Ça n'est plus supportable, cette petite musique sur l'illégitimité de la violence des faibles. Je vous invite à déconstruire le discours dominant qui fait passer la légitime exaspération de la base pour une manifestation compulsive. J'accepterai le terme de délinquant quand il sera un peu mieux distribué entre les camps. Cela n'est pas violent de savoir que les enfants de médecins et d'avocats ont une chance sur deux de devenir les 20% les plus riches, quand les enfants d'ouvriers ont une chance sur trois de rester dans les 20% les plus pauvres. Les droits du peuple ne sont pas bafoués quand il faut 6 générations aux enfants des familles modestes pour atteindre le revenu moyen. 90% des enfants d'enseignants font des études supérieures pour 30% des enfants d'ouvriers. Je continue. Et on peut encore pérorer sur l'égalité des chances sans réagir. J'enseigne depuis 38 ans et j'ai le sentiment désespéré d'avoir participé à ce que rien ne bouge. J'ai passé l'agrégation en 1984, c'était déjà 20 ans après les héritiers de Bourdieu, et rien ne bouge.
On a fait déjà plusieurs présentations de maquettes, au moins 3 présentations d'étapes du travail. À chaque fois, il y avait des enseignants. Pour l'instant, dans ces 3 étapes-là, aucun enseignant, je crois, ne s'est senti attaqué. Évidemment, il s'est senti critiqué à certains endroits, mais c'était pas la profession qui était attaquée. Enfin, on sentait bien. Enfin, je crois qu'on est très en soutien à cette profession-là.
On a même réécrit un peu la fin pour la première fois qu'on a traversé toute la pièce. On a réécrit la fin parce qu'on trouvait qu'il y avait une ambiguïté sur le fait que peut-être on pouvait mettre en cause les enseignants. Vraiment, c'était très clair dès le début, quoi. Enfin, quand quelque chose ne fonctionne pas dans le système éducatif ou quand quelque chose est questionnable dans le système éducatif, c'est pas le fonctionnaire au bout de la chaîne, seul devant les 30 enfants, qui est responsable. Il le subit. Dans les 4 ans de travail, ça n'a pas quitté notre esprit un seul instant. Et on espère vraiment que ça se voit dans le spectacle, et on en parle avec les comédiens. Ouais, même quand on rigole jamais contre, hein, on rigole avec. Hein. J'espère qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans le spectacle, parce que nous, il n'y en avait pas quand on a écrit, quoi.
Mais en même temps, je crois qu'on ne s'empêche pas non plus de critiquer certains profils, parce qu'ils existent. Et c'était ça qui était assez drôle aussi sur les premières étapes, quand certains enseignants sont venus voir l'une des premières étapes, où nous, on était là, oh là là, on a dirigé les comédiens, enfin, j'ai dirigé les comédiens de manière peut-être un peu trop caricaturale, mais bon, on allait vite, et on avait l'impression que c'était assez outrancier. Et quelque part, des enseignants qui sont venus nous dire « Ah mais non, mais moi j'ai mis des noms sur vos personnages, des noms que je côtoie tous les jours. » Je crois qu'il y a de la vérité, il y a de la moquerie, forcément. C'est une profession dont tout le monde se moque. Mais je crois que nous, on peut se moquer de certains enseignants dans le spectacle, mais avec beaucoup d'amour pour la profession.
Il n'y a pas de héros, il n'y a pas tellement de anti-héros. C'est-à-dire que tous ont un moment où ils sont vraiment achetés par la fenêtre, et tous ont des moments de très grand bon sens.
On a tous d'énormes certitudes sur l'éducation nationale. Et je crois qu'une des choses qu'on a essayé de faire, c'est et que le spectateur sorte de la salle avec moins de certitude qu'avec lesquelles il soit rentré.
C'est un état des lieux du débat idéologique, pas de la situation quotidienne des établissements.
Il y a trop de sujets.
Il y a trop de sujets.
Et puis en fait, pour être tout à fait sincère, plus on a avancé dans ce projet, moins j'ai de solutions. Mais globalement, comment faire?
Moi, j'ai enseigné dans le supérieur et j'interviens dans un CFA. dans un centre de formation d'apprentis du spectacle vivant. Et quand même, c'est des points de détail, c'est pas macro. Mais il y a deux choses auxquelles je suis très attachée quand même, c'est la question de la langue. Enfin, globalement, les mathématiques et les matières scientifiques ont pris une place dans la société et dans l'enseignement que je trouve pas très raisonnable. Enfin, le fait que moins on a de vocabulaire, moins on peut affiner une pensée, c'est du bon sens et on voit quand même une baisse du vocabulaire observable et une baisse du nombre d'heures de français dans l'enseignement primaire et secondaire qui est observable aussi. Donc ça, quand même, il y a un collectif qui s'appelle Sauver les lettres, voilà, donc je me sens quand même très proche sur ce sujet-là. Et l'autre chose auquel je suis assez attachée pour avoir récupéré en première année de fac des gens qui venaient d'avoir leur bac, c'est quand même la question de la chronologie. C'est-à-dire qu'on a beaucoup ces dernières années, que ce soit en histoire ou en français, construit des enseignements thématiques. C'est important pour comprendre le lien entre les choses, de voir que les choses s'enracinent dans une histoire. Et beaucoup, moi, en première année de fac, je me suis retrouvée à arrêter le cours que j'avais à faire et à refaire Père Castor et à raconter un peu des grands mouvements de l'Occident. Qu'est-ce qui se passait du XVIIe au XXe siècle? C'était quoi en 10 minutes le passage de la modernité à la postmodernité? Et on voit bien, quand on prend quelqu'un de 18 ans et qu'on prend 10 minutes pour faire ça de manière très vulgarisatrice, mais il y a un éclair qui s'allume dans le regard, quoi. Si j'étais ministre de l'Éducation nationale, je serais une ardente défenseuse du retour à l'enseignement chronologique.
Qu'il s'agisse de l'enseignement proprement dit ou de la sélection, le professeur ne connaît que des enseignés égaux en droit et en devoir. Si au cours de l'année scolaire, il lui arrive d'adapter son enseignement à certains, c'est aux moins doués qu'il s'adresse, et non aux plus défavorisés par leur origine sociale. De même, si le jour de l'examen, il prend en compte la situation sociale de tel candidat, ce n'est pas qu'il le perçoive comme membre d'une catégorie sociale défavorisée, c'est au contraire qu'il lui accorde l'intérêt d'exception que mérite un cas social. Dire sur le ton de la déploration résignée que les étudiants ne lisent plus ou que le niveau baisse d'année en année, c'est en effet éviter de se demander pourquoi il en est ainsi et d'en tirer les conséquences pédagogiques. On comprend que ce système trouve son accomplissement dans le concours, qui assure parfaitement l'égalité formelle des candidats, mais qui exclut par l'anonymat la prise en considération des inégalités réelles devant la culture. Les héritiers, Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, septembre 1964.
Qu'est-ce que c'est qu'une nation où il y aurait 70 millions de chefs d'entreprise et de gens bac plus 12? Il y a besoin de faire les choses. Donc l'école ne se fixe pas comme objectif d'envoyer tout le monde à HEC. Hein.
Qu'est-ce qu'on veut que l'école fasse? C'est juste la chose, parce qu'on pourrait aussi se dire quelque part, mais en fait l'école va très bien. Il n'y a pas de problème. L'école suit exactement le programme dont on a besoin. L'école forme une petite élite qui va être dans les grands métiers. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Par contre, on a besoin de beaucoup de personnes qui vont travailler dans des emplois à faible qualification, qui vont s'apprendre en 48 heures. Enfin, voilà, encore, c'est les conférences de Nico Hirt qui nous ont amené sur cette question. Mais quelque part, finalement, le projet se déroule parfaitement et toutes les réformes sont allées au-delà des espérances. Et encore une fois, on nous impose des études PISA qui nous disent un classement, mais c'est surtout, mais qui commande ces enquêtes? Mais c'est l'OCDE. L'OCDE qui aussi dit régulièrement à la communauté européenne de il serait bon que l'école évolue de telle manière parce que dans 20 ans, le marché de l'emploi sera de telle manière. Donc en fait, nous avons besoin. En fait, s'il n'y a pas un pouvoir politique fort qui contre, mais je suis un peu pessimiste en disant ça, mais je crois que presque le plan se déroule comme prévu. Enfin, ça, en tout cas, si l'école en est dans cet état-là aujourd'hui, c'est pas juste « Oups, ah, on s'est pas rendu compte ».
Non.
Je crois qu'il y a des choix qui ont été...
Il y a un projet, parce qu'il y a des besoins. Et la modernité avait besoin que les gens soient plus éduqués. C'était utile à un moment que tout le monde sache lire, écrire, qu'un paysan puisse tenir sa comptabilité. Il y a un moment de l'histoire où on a eu besoin qu'on soit plus éduqué. Là, il y a besoin qu'on soit moins éduqué. Il y a eu besoin d'éduquer les gens pour que tout le monde travaille. Il y a besoin qu'on soit moins éduqué pour que tout le monde consomme.
Oui, c'est ça, le collège unique n'est pas né par humanisme.
Du tout.
Puis à l'école, hein, l'école. Je demande à chaque mec des cités, t'as quoi comme diplôme? Enfin, comme brevet, oui. Tu vas sortir, j'ai un BEP, moi, un BEP. Et tu crois que tu vas faire quoi avec un BEP, hein? Et combien de millionnaires en BEP? hein. Moi, aujourd'hui, tu vas voir la conseillère d'orientation, elle sort, ouais. Moi, j'ai un bon plan pour vous. Faites un PEP chaussure. Je lui fais, moi, les gens, ils m'ont attendu pour marcher, moi, hein.
Dans ce discours ambiant de la bienveillance depuis une trentaine d'années, il y a eu énormément de dégâts. Et l'un des dégâts, c'est effectivement des jeunes gens à qui on a donné le bac parce que ça servait à rien de les faire redoubler, parce qu'on n'avait plus de place en terminale et que l'éducation nationale s'en décharge sur la suite du système. Et là, c'est pas bien.
Et pour autant, encore une fois, bah, ce 90-98% au bac, c'est un projet politique. Encore une fois, les choses se déroulent parfaitement. C'est-à-dire que c'était Chevènement, je crois, qui voulait 90% au bac dans les années 90. Et résultat, c'est l'an passé, alors avec la crise sanitaire, etc. Mais je crois qu'on est arrivé à 96. Ouais, on a dépassé les espérances.
Il y a eu un moment des années 70 où niveau bac voulait dire quelque chose sur le marché de l'emploi. C'était un vrai curseur. Ce poste-là, faut le bac. Ça fait un moment que j'ai pas vu passer une offre d'emploi qui dit niveau bac, sauf les bacs pro. Précisément, quand on a un métier. Oui, c'est là, un bac pro, c'est un bac pro.
Mais même aujourd'hui, c'est-à-dire que...
Niveau bac général, un bac général, ça sert à l'université, ça cherche pas à trouver du travail.
Même licence, aujourd'hui, même licence...
Bah, sauf les licences pro.
Qu'est-ce que vous pouvez espérer, hein? Laisse tomber pendant qu'il y en a encore temps. Personne n'a été blessé. Relâche les otages, va. Tout le monde se fout de l'inculpation de kidnapping, tu sais. Tu prendras 5 ans au maximum et tu sortiras au bout d'un an.
Un petit bisou.
Quoi?
Un bisou.
Pour rendre cette matière digeste, on s'est inspiré de la dramaturgie du cinéma et des séries policières à suspense qui justement s'amusent à perdre le spectateur sur quand on est. Donc on oscille entre présent, flashback, flash forward. Et puis c'est une enquête policière, donc quelque chose de grave s'est passé. Ce qu'il y a à dénouer, c'est savoir qu'est-ce qui s'est mal passé et qui est responsable. C'est un whodunit, quoi.
Chères auditrices et chers auditeurs, avant de clore cet épisode et de vous laisser au conseil de lecture de Madame Corinne Méniel et d'un extrait lu par la magnifique Charlie Dracon que je remercie mille fois, je tiens à vous rappeler que le spectacle La Folle Idée se jouera du 8 au 10 novembre 2021 au Théâtre de la Foudre de Petit-Quevilly avant de partir en tournée dans notre belle région. Courez-y, on se retrouve sur place.
Ouais, ma gueule.
Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier bien sincèrement pour avoir écouté cette émission. Émission conçue et présentée par Steve. Et à la technique, l'homme qui m'a tout appris, notre maître à tous, mon étoile, j'ai nommé mon homeboy, monsieur Nicolas Lebord. Big up à toi, mon pote.
Et bonjour, hein.
Un grand merci, bien sûr, à toute l'équipe du CDN pour leur fidélité sans faille. Au top. Spéciale dédicace à Charlotte Flamand et Raphaël Parès, qu'on embrasse bien. Évidemment, un très grand merci à Corinne Méniel et Angelo Josek pour leur disponibilité et leur générosité. Longue vie à cette folle idée. Un énorme big up à Catherine DeWitt, Charlie Dracon, Lou Valentini, Jean-François Levistre, Rémi de Senoy et Jean-Marc Talbot qui nous ont fait la gentillesse de partager avec nous des extraits de leurs textes, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe comédienne-comédien qui nous ont accueillis pendant leurs répétitions. Merci. Enfin, à la création musicale, une ovation à William Langlois pour le partage des pistes diffusées dans cet opus. Bon vent, camarades. Merci à France 24 pour l'extrait du reportage consacré à l'école autonome. N'hésitez pas à réagir et à partager sur la page Facebook de l'émission. À très vite pour de nouvelles aventures. Je vous laisse avec cette pensée. Il ne s'agit pas seulement de savoir quel monde nous allons laisser à nos enfants, mais à quels enfants allons-nous laisser notre monde. Eh bien, puisque ça n'engage à rien. Écoutez, Corinne.
C'est un ouvrage d'Augustin Dumière qui s'appelle « Un petit fonctionnaire ». C'est un professeur de lettres classiques dans un lycée de ZEP et qui justement raconte cette impression qu'il a de mensonge. De dire qu'on est trop bienveillant, qu'on met beaucoup de bonnes notes et qu'on dit aux élèves qu'ils sont bons et on, selon son expression, il dit on les laisse se fracasser sur leurs rêves. Lui qui a enseigné toute sa vie en ZEP, il constate qu'il n'a pas un ancien élève qui est devenu cadre dans une grande banque ou qui a réussi normal sup ou qui est même allé en classe prépa puisque ses élèves ne savent même pas ce qu'est une classe prépa. Un petit fonctionnaire, Augustin Dumière.
Au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, des professeurs d'Aubervilliers avaient publié dans Le Monde du 13 janvier 2015 un article qui s'achevait par ces mots. Nous sommes aussi les parents de trois assassins. Voici ce qu'ils écrivaient. Si les crimes perpétrés par ces assassins sont odieux, ce qui est terrible, c'est qu'ils parlent français avec l'accent des jeunes de banlieue. Ces deux assassins sont comme nos élèves. Le traumatisme, pour nous, c'est aussi d'entendre cette voix, cet accent, ces mots. Voilà ce qui nous a fait nous sentir responsables. Évidemment, pas nous, personnellement. Voilà ce que diront nos amis qui admirent notre engagement quotidien. Mais que personne, ici, ne vienne nous dire qu'avec tout ce que nous faisons, nous sommes dédouanés de cette responsabilité. Nous, c'est-à-dire les fonctionnaires d'un État défaillant. Nous, les professeurs d'une école qui a laissé ces deux-là et tant d'autres sur le bord du chemin des valeurs républicaines. Tous ceux qui sont venus, jour après jour, sur les bancs des écoles, des semaines, des mois, des années. Nous les connaissons et surtout, nous savons ce que nous leur avons transmis de la France. Rien. Ni une langue, ni une histoire, ni des textes, ni des mots. Nous les avons laissés sans la moindre défense face aux discours des fanatiques et des puissances d'argent. Ils n'avaient plus qu'une famille pour les protéger, quand ils en avaient une, et certains parents sont parfois encore plus égarés que leurs enfants. Nous savons que l'histoire n'a commencé ni à Raqqa, ni à Mossoul. Elle commence chez nous, avec des familles et des enfants qui ne sont pas très riches et auxquels nous n'avons rien transmis. Nous savons que nous avons construit une école qui fait sortir de son sein des élèves chez lesquels nous n'avons rien fait retentir. Sinon, la colère sourde et diffuse d'avoir été victime d'un système qui, sous couvert d'égalité des chances et de formation à la citoyenneté, ne fait qu'amplifier les inégalités et vise à n'apprendre strictement rien de clair et de précis à un élève. Nous savions et nous n'avons rien dit. Nous avons fait comme si de rien n'était. Faire comme si la vie continuait. Faire comme si tout était normal.